Prions ensemble. Notre Dieu, notre Père, accorde-nous la grâce aujourd'hui de voir, de comprendre et d'aimer Jésus, notre Sauveur, vivant pour notre salut. Nous t'en prions en son nom. Amen. Imaginez, vous allez un jour dans un salon funéraire, parce qu'une personne est décédée, elle est là exposée. Vous rentrez dans cette pièce et puis il y a là, d'un côté, le cercueil avec des fleurs. Le cercueil est ouvert et dedans, on a bien arrangé la personne qui était décédée. Vous voyez qu'on a mis un peu de poudre sur son visage. On a essayé de le rendre moins cadavérique. Et puis ailleurs, dans la pièce, se trouve les gens qui sont venus voir, les membres de la famille, les uns et les autres discutent, ils parlent, ils rappellent des souvenirs. Vous savez que les enterrements sont souvent les moments où on peut rassembler toute la famille, c'est assez exceptionnel. Alors d'un côté, il y a là cette personne décédée et puis les autres qui sont là, qui parlent, qui discutent. Et pendant que vous allez saluer les gens de la famille, rentre un homme que personne ne connaît, qui vient près du cercueil. Et puis tout le monde se tourne et regarde parce que c'est un inconnu, il ne dit rien. Et s'adressant à la personne qui est dans le cercueil, il dit maintenant, lève-toi. Et la personne ouvre les yeux. Elle s'assied dans sa boîte. Elle sourit à cet homme qui est là. Et cette personne est vivante. Et ce n'est pas une blague, et ce n'est pas un truc. C'est vrai. Jésus est venu et a rendu la vie à cette personne. Vous n'aurez rien à raconter. Vous n'aurez rien à dire. Quand vous allez sortir de là, qu'est-ce que vous allez faire? Il y a parfois des textes difficiles à comprendre dans les Écritures. Dans l'Évangile de Luc au chapitre 8 et au verset 56, il y a là encore une résurrection. Jésus va ressusciter la fille de Jaïrus et il va dire une chose que je ne comprends pas. Jésus va dire, Luc 8, 56, il leur recommanda de ne dire à personne ce qui était arrivé. Mes amis, je ne comprends pas parce que c'est impossible. Si vous êtes témoin d'une résurrection que Jésus accomplit sous vos yeux, vous savez que cette personne est décédée et vous la voyez maintenant vivante et vous pouvez la prendre dans vos bras, vous n'aurez rien à dire, vous arriverez à garder votre bouche fermée et ne rien dire. Ça me paraît difficile. C'est vrai que les miracles sont peut-être plus fréquents qu'on ne pense, mais les résurrections sont rares. Notre génération, que je sache, n'a pas été témoin de résurrection. Mais c'est vrai que nous parlons de la résurrection, nous en parlons parce que la Bible en parle. Mais je suis sûr que si nous avions été un jour témoins d'une résurrection accomplie par Dieu, Jésus lui-même, nous ne serions plus les mêmes, nous aurions quelque chose à dire. Pour nous encourager, pour nous aider à prendre conscience de la réalité de ce pouvoir divin de rendre la vie, la Bible nous parle de 7 résurrections. D'une manière précise, oh, il y en a d'autres, je sais que lorsque Jésus est ressuscité, un certain nombre de saints, nous dit le texte, sont sortis de leur tombeau. Combien nous ne savons pas? Qui étaient-ils? Nous ne le savons pas non plus. Je sais que Moïse aussi a été ressuscité, mais lui n'a pas été ressuscité pour vivre de nouveau sur la terre comme les autres. Il a été ressuscité pour aller au ciel, où il est encore maintenant. Mais la Bible nous parle de 7 résurrections spécifiques. Et je crois que ces 7 résurrections nous parlent de celui qui est le maître de la résurrection. La première de ces résurrections se trouve racontée dans le deuxième livre des Rois, au chapitre 4. Dans le deuxième livre des rois au chapitre 4 se trouve l'histoire de cette famille sunamite qui recevait régulièrement le prophète Élisée. Et un jour, à cause des visites fréquentes du prophète, ils ont décidé de construire sur le toit de leur maison une chambre haute pour le prophète, un lieu particulier où il pourrait se reposer. Et lors de sa visite suivante, ils ont introduit Élisée et son serviteur dans cette chambre haute qu'ils avaient construite sur le toit de leur maison. Élisée a été impressionné par l'affection qui était exprimée par cette famille de la ville de Sunem. Et il a demandé à cette femme, « Que puis-je faire pour toi ?» Elle lui a répondu, « Rien, je n'ai besoin de rien, nous t'avons offert ça avec plaisir. » Et en discutant avec son serviteur, Élisée se demandait ce qu'il pouvait faire pour remercier cette famille. Et le serviteur a dit à Élisée, « Je crois que cette femme est stérile, elle n'a pas d'enfant. » Alors, Élisée est allé voir cette femme et lui dit, c'est au chapitre 4 du deuxième livre des rois, au verset 16. Élisée lui dit, à cette même époque, l'année prochaine, tu embrasseras un fils. Elle dit, non, mon Seigneur, homme de Dieu, ne trompe pas ta servante. Curieusement, ce scénario ressemble à un autre scénario que nous connaissons bien et qui se trouve dans le livre de la Genèse, au chapitre 18, où les anges, vous vous souvenez, viennent rendre visite à Abraham. Trois personnages. Deux, nous savons, sont un ange, l'autre est appelé l'Éternel. Et à un moment particulier, celui qui est l'Éternel dit à Abraham qu'il va avoir un fils. Et derrière la tente, Sarah rigole. Et ce voyageur se tourne vers elle et dit, pourquoi a-t-elle ri ? Abraham, pour la défendre, elle dit elle-même, je n'ai pas ri. Vous voyez le visage de Sarah qui devient rouge comme une tomate ? Et pourtant, c'est évident, enfin, à son âge. Et puis Abraham non plus, il n'a plus 20 ans, voyons. C'était risible. Et l'Éternel lui dit, « Je reviendrai à la même époque et tu auras un fils. » Curieux, ce même scénario que l'on retrouve dans ces deux événements. Le fils de la Sunamite, c'est le fils de la promesse. Parce que Isaac, qui va naître de cette promesse que Dieu a fait à Abraham, Isaac est une image du fils de la promesse, Jésus lui-même, qui lui va aller jusqu'au sacrifice, jusqu'au bout du sacrifice. Mais cet enfant que Élisée va promettre à la Sunamite, vous vous souvenez qu'il va mourir, il sera jeune encore. Et cette femme va aller voir le prophète et va lui dire, « Je ne t'ai rien demandé, pourquoi m'as-tu donné un fils pour le reprendre maintenant ?» Et vous vous souvenez que Élisée va implorer Dieu et que Dieu va rendre la vie à ce garçon. C'est la première résurrection dont la Bible nous parle. D'un être humain qui reprend la vie et qui continue sa vie sur la terre. Parce que la résurrection de ce garçon, c'est la résurrection du fils de la promesse. Mais le fils de la promesse, c'est Jésus. La résurrection de ce garçon nous parle de la résurrection du fils de la promesse, du fils promis, de la résurrection de Jésus lui-même en personne. Il y a une deuxième résurrection qui nous est rapportée dans le livre des Rois, un peu plus loin, au chapitre 13, une histoire curieuse, rapportée pendant deux ou trois versets seulement, un peu plus tard dans l'histoire. Élisée, lui, est mort, il a été enterré dans son village qui s'appelle Abel-Méola. Mais avec la mort du prophète, dans l'esprit de beaucoup, c'était aussi la mort du Dieu du prophète, de la foi du prophète, des paroles du prophète. Et le peuple ayant laissé son adoration de Dieu et sa relation avec Dieu, les problèmes évidemment ont commencé. Et les Moabites venaient régulièrement faire des razzias dans le pays, prendre les récoltes, prendre les gens pour en faire des esclaves. Le pays était à la merci de ces bandes d'étrangers qui venaient appauvrir le pays. Et un jour, dans Abel-Méola, un homme est mort. On s'est préparé pour l'enterrer, on est pauvre, on l'emballe simplement dans un linceul. Et de ce village, placé sur une hauteur, quelques hommes descendent vers le cimetière qui est en bas pour aller enterrer cet homme. Au moment où ils sont en bas, l'alerte est donnée. Une bande de Moabites arrive, à cheval probablement, pour prendre tout ce qu'ils vont trouver sur leur chemin. Affolés, paniqués, ces fossoyeurs ne prennent pas le temps d'enterrer cet homme comme il faut. Ils poussent la pierre tombale du prophète Élisée, ils y jettent cet homme mort et prennent leurs jambes à leur cou. Cet homme, nous dit le texte, va toucher les os d'Élisée, va revenir à la vie et va courir de nouveau rejoindre les autres dans le village. Une histoire curieuse. On avait oublié le Dieu du prophète. On avait oublié que Dieu avait parlé. Et ce jour-là, avec l'humour qu'il a, Dieu a voulu rappeler que sa parole ne meurt pas avec les prophètes. La résurrection de cet homme était destinée à parler de celui qui est une parole éternelle et vivante, de cette parole prophétique de Dieu qui ne meurt pas. Pas une parole qui s'en va avec le prophète lorsqu'il meurt. Et Dieu a voulu rappeler à ces gens que le prophète mort ne correspondait pas à la mort du Dieu du prophète et que sa parole était encore vivante. La mort de cet homme correspond à la résurrection de celui qui est la parole vivante et éternelle de Dieu, cette parole qui vit à toujours. Jésus disait d'ailleurs, les Écritures rendent témoignage de moi. Il est la parole vivante, il est la parole prophétique, il est aussi ressuscité. La troisième résurrection que l'on trouve dans les Écritures se trouve dans l'évangile de Luc au chapitre 7. C'est le texte que nous avons lu ensemble ce matin, où Jésus va rendre la vie à la fille de Jaïrus. Non, pardon, excusez-moi, c'est la résurrection du fils de la veuve de Naïn. La résurrection du fils de la veuve de Naïn. Jésus s'apprête à rentrer dans cette ville avec ses disciples et deux foules se croisent. La foule de Jésus qui veut entrer et la foule de ces gens qui sortent pour enterrer ce jeune homme. Et le texte est précis. Il nous dit « Ce jeune homme est en fait le fils unique de sa mère et sa mère est veuve. » Et un peu plus loin, au verset 13, il nous est dit que Jésus, l'ayant vue, fut ému de compassion pour elle et lui dit « Ne pleure pas ». C'est difficile à quelqu'un qui est dans le deuil de cette manière-là de lui dire « Ne pleure pas ». Mais quand Jésus dit ça, on peut imaginer que quelque chose va se passer. Et Jésus va appeler ce garçon. Et devant tout le monde, il va se lever et Jésus va le rendre à sa mère. Il était, nous dit le texte, le fils unique d'une veuve. Jésus aussi, à sa mort, était soucieux de sa maman. Jésus aussi était le fils unique de sa mère, Marie, qui était veuve. Elle aussi était veuve. Et c'est la raison pour laquelle, du haut de la croix, Jésus va confier sa mère à Jean. Parce que la situation d'une veuve sans enfant n'est pas imaginable pour nous aujourd'hui. Mais Jésus n'est pas simplement le fils unique de Marie. Jésus est d'abord et avant tout le fils unique de Dieu, qui est une manière hébraïque d'exprimer cette relation unique, spéciale, entre Jésus et Dieu le Père. Ainsi, la résurrection du fils de la veuve de Naïn, c'est une résurrection qui nous parle de la résurrection du fils unique de Dieu venu pour sauver l'humanité. La quatrième résurrection, c'est celle que je mentionnais il y a un instant dans l'évangile de Luc au chapitre 8, où se trouve le récit de cette résurrection de la fille de Jaïrus. C'est dans les sept la résurrection qui est au centre. Et pour reprendre cette manière hébraïque de s'exprimer, cette résurrection qui est au milieu des autres, la quatrième parmi les sept, revêt un aspect particulier, c'est peut-être la résurrection importante dans les sept. Jaïrus veut dire « éclairé par Dieu ». Celui que Dieu a fait lumière, c'est ce que l'on peut tirer de son nom. Et c'est vrai, Jésus disait « Je suis la lumière du monde ». L'évangile de Jean commence par cette comparaison pour nous faire comprendre Jésus lui-même. Et Jean, dans son évangile au chapitre 1, verset 9, dit « Cette lumière était la véritable lumière ». Qui, venant dans le monde, éclaire tous les hommes. Maintenant, lorsque Jésus, lui, est ressuscité, peu de gens ont été témoins de la gloire qui s'est manifestée. Ceux qui l'ont vu, nous dit le texte, ont eu tellement peur qu'ils étaient terrassés par terre comme morts. Oh, ce n'étaient pas des trouillards, c'était des légionnaires romains, s'il vous plaît, des têtes brûlées, des gars qui n'avaient peur de rien. C'est eux qu'on a mis en faction devant la tombe d'un mort, pour être sûr qu'ils ne sortent pas. Et vous pouvez imaginer ces soldats qui ont bien rigolé lorsqu'on les a mis là-devant. Voilà qu'on nous met pour garder un mort maintenant, ça c'est une bonne blague. Mais lorsqu'ils ont vu Jésus sortir, c'était plus une blague. Le texte nous dit qu'ils ont été terrassés de peur par l'éclat de la puissance de la résurrection de Jésus. Son aspect, dit le texte, était comme un éclair et son vêtement blanc comme la neige. Vous avez déjà vu un éclair? Vous l'avez regardé de vos yeux au moment où il a éclaté? Cet éclair, mes amis, vous le voyez encore pendant 5 minutes dans vos yeux tellement il vous a brûlé la rétine. C'est cette lumière qu'est Jésus, le ressuscité. Une lumière qu'il avait encore voilée pour que ces êtres humains ne soient pas détruits par sa gloire. Ainsi, la résurrection de la fille de Jaïrus nous parle de la résurrection de Jésus, la lumière du monde. Celui qui était lumière et qui n'a pas pu rester dans les ténèbres de la tombe. Ce n'était pas sa place, il ne pouvait pas y rester. Il était lumière et il s'est manifesté lumière avec puissance, avec force. La résurrection de la fille de Jaïrus nous parle de celui qui, lumière, lumière du monde, est ressuscité pour éclairer tous les hommes. La cinquième résurrection que nous connaissons se trouve dans l'évangile de Jean, au chapitre 11, c'est la fameuse résurrection de Lazare. Lazare, un ami de Jésus. Son nom, d'ailleurs, est intéressant. C'est une abréviation du nom hébraïque Éléazar, qui veut dire « Dieu vient en aide ». Et qu'il porte bien son nom. Lazare. Lazare est tombé malade, vous vous en souvenez. On en a averti Jésus. Et Jésus n'a pas bougé. Et cette réaction de Jésus était incompréhensible autant pour les disciples que pour les sœurs de Lazare, parce que Jésus était toujours empressé d'aller guérir ceux qui se présentaient à lui et qui étaient malades. Il allait même guérir ceux qui ne lui demandaient rien. Et voilà qu'on demande à Jésus de venir guérir Lazare et il ne vient pas. Jésus va laisser la maladie aller jusqu'au bout et prendre sa vie. Mais Jésus va venir et devant le tombeau, il va dire « Lazare, sors !» Et Lazare va sortir. La résurrection de Lazare, c'est une résurrection qui nous parle de celui qui guérit toutes nos maladies. Prenez, voulez-vous, avec moi ce texte. Il est fort, il est dans le livre de l'Exode, au chapitre 15. Exode, chapitre 15. Le peuple d'Israël vient d'être conduit au travers d'une expérience incroyable qui est de traverser à pied sec la mer Rouge. Dans cette expérience, leurs ennemis ont été détruits. Et vous vous souvenez comment le Nouveau Testament reprend cette expérience du peuple hébreu pour la comparer au baptême. Et juste après cette expérience, chantée et louée par Moïse dans le cantique que le chapitre 15 rapporte, il nous est dit au verset 26, à la fin du verset 26 du chapitre 15 de l'Exode, cette dernière phrase, « Car je suis l'Éternel » qui te guérit. Je suis l'Éternel qui te guérit. Jésus était connu de son temps pour les guérisons qu'il pratiquait. De nombreuses personnes pouvaient dire « Jésus m'a guéri ». Les boiteux marchaient, les muets parlaient, les lépreux étaient purs. Ceux qui avaient la fièvre étaient saints de corps. Jésus a guéri toutes sortes de maladies. Dans le livre des Psaumes, au chapitre 103, il y a cette belle parole que j'aimerais relire avec vous. Psaume 103. Il est dit au verset 2, Psaume 103, verset 2. « Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. » On ne peut pas ne pas voir ici le parallèle entre pardonner les iniquités et guérir les maladies. J'aimerais ce matin vous rappeler que la seule maladie qui soit mortelle, la seule maladie qui soit mortelle, s'appelle le péché. Désolé de vous contredire si vous êtes infirmière et médecin, mais la seule maladie qui soit mortelle, c'est la maladie du péché. Et c'est sans aucun doute de cette maladie-là que Jésus veut aussi nous guérir. La résurrection de Lazare nous parle de la résurrection de celui qui est capable de guérir toutes nos maladies, y compris la seule qui soit mortelle, le péché. La sixième résurrection se trouve rapportée dans le livre des Actes, au chapitre 9. Actes, chapitre 9. Où il nous est parlé de cette femme que nous connaissons simplement par cet événement et qui s'appelle Dorcas. Dorcas était une personne connue pour le bien qu'elle faisait autour d'elle, pour les vêtements qu'elle confectionnait, pour les pauvres et pour les dons qu'elle faisait. Et un jour, Dorcas est décédée. Le texte est extrêmement curieux. Dans le livre des Actes, au chapitre 9, à partir du verset 36, il nous est dit que Dorcas est décédée et qu'on a fait venir tout de suite l'apôtre Pierre. C'est curieux comme ces gens, devant la mort de Dorcas, disent à Pierre, viens vite, mais viens vite, c'est trop tard. Je suspecte que ces gens avaient une telle confiance en Dieu qu'ils savaient que Dieu pouvait faire par Pierre quelque chose pour Dorcas. Vous n'appelez pas en urgence l'apôtre au chevet d'un mort si vous n'avez pas une idée derrière la tête. Et vous vous souvenez comment l'apôtre Pierre a demandé au Seigneur par la prière de rendre la vie à Dorcas et lui dit « Tabitha, lève-toi ». Et elle s'est levée et elle a continué son ministère de bienfaisance qu'elle avait commencé. La résurrection de Dorcas nous parle de celui qui est miséricorde par définition et qui dans son ministère sur la terre a exprimé la même chose. Vous vous souvenez, lorsque Jésus guérissait les malades, les gens disaient, et l'on trouve ce passage dans Matthieu chapitre 9, verset 33, « Jamais pareille chose ne s'est vue en Israël. » Les gens étaient impressionnés de voir comment cette compassion et cet amour du Christ se manifestaient dans la guérison, dans la restauration des personnes qu'ils rencontraient. On s'est moqué de lui à cause de ça. Sur la croix, on disait « Ah, il a sauvé les autres, il ne peut pas se sauver lui-même. » On se moquait de lui parce qu'il avait été bon envers les autres, qu'il les avait guéris, qu'il leur avait donné la vie. La résurrection de Dorcas nous parle de celui qui est doux et humble de cœur. De celui qui est compassion par nature. Et dès le début des Écritures, nous trouvons par rapport à Dieu cette qualité qui est exprimée dans le psaume 145. Ce psaume semble reprendre une formule d'adoration, de doxologie très ancienne que l'on retrouve dans le Pentateuque à plusieurs reprises et qui se retrouve ici dans le livre des psaumes, psaume 145, au verset 8. Psaume 145, verset 8, dit « L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère, plein de bonté. L'Éternel est bon envers tous, et ses compassions s'étendent sur toutes ses œuvres. » La résurrection de Dorcas nous parle de la résurrection de celui dont la compassion s'étend sur toutes ses œuvres. Et nous faisons partie de ses œuvres. La dernière résurrection que la Bible nous rapporte se trouve aussi dans le livre des Actes, au chapitre 20 cette fois. Et c'est la résurrection d'un jeune homme qui s'appelle Eutychus. L'apôtre Paul était venu dans la ville de Troas et comme tout prédicateur, il parlait trop. Trop longtemps. Et Paul faisait là sa prédication d'adieu. Elle a duré longtemps, 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 longtemps et puis le soleil s'est couché. Et puis Eutychus était là, il était avec les autres dans cette pièce au troisième étage d'une maison. Et il faisait chaud, comme aujourd'hui. Eutychus, pour avoir de l'air, s'était assis sur le rebord de la fenêtre. Ce qui n'est pas nécessairement une mauvaise idée, sauf si on est au troisième étage et que Paul prêche trop longtemps. Eutychus s'est endormi. Et malgré le sens de son nom, qui veut dire le chanceux, Eutychus est tombé du troisième étage et il est mort. Imaginez l'émoi dans la salle. Tout le monde est descendu. L'apôtre Paul a relevé ce garçon et le Seigneur lui a rendu la vie. Eutychus, dans sa résurrection, nous parle de celui qui est ressuscité pour ceux qui ne sont pas du peuple de Dieu. Eutychus est un Grec, ce n'est pas un Juif. Eutychus, c'est un de ceux qui, ayant entendu parler du Christ, l'a accepté comme son sauveur personnel. Eutychus, c'est un de ceux que l'on est allé chercher au-delà de Jérusalem, au-delà de la Judée, au-delà de la Samarie. Eutychus, c'en est un qu'on est allé chercher aux extrémités de la terre, de l'époque. Sa résurrection nous parle de ceux qui seront appelés par les témoins de Jésus-Christ à accepter le ressuscité pour eux aussi avoir la vie éternelle. Dans Matthieu chapitre 21, Jésus disait au peuple, à son peuple, à cause de sa méchanceté, c'est pourquoi le royaume des cieux vous sera enlevé et sera donné à une nation qui emportera les fruits. Et cette nation qui emporte les fruits, c'est l'Église. Cette Église qui va jusqu'aux extrémités de la terre, et Eutychus est un de ceux-là. Sa résurrection nous parle de celui qui est ressuscité pour donner la vie éternelle à tous ceux que ses témoins iront chercher jusqu'aux extrémités de la terre. Cette résurrection, et remarquez que c'est cette résurrection nous parle toute de Christ, le ressuscité, celui que la Bible nous présente comme les prémices de ceux qui sont morts et qui ont retrouvé la vie. Parce qu'en réalité, si Jésus n'était pas ressuscité, aucune des autres résurrections n'aurait pu jamais avoir lieu. Chacune de ces sept résurrections nous parle du vrai ressuscité et rend témoignage à un aspect du caractère parfait du Christ. Mais alors, je me pose la question, parce qu'en réalité, nous sommes appelés, nous aussi, à être ressuscités. Et l'Épître aux Romains, au chapitre 6, nous parle clairement de cela. Regardez avec moi ce passage dans l'Épître aux Romains, au chapitre 6, les versets 3 à 5. Épître aux Romains, chapitre 6, les versets 3 à 5. Il est écrit ceci: « Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. Par notre baptême, nous avons accepté de mourir, puis de ressusciter dans une vie nouvelle. Tous ceux qui, dans cette salle, ont accepté d'être baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ont accepté de mourir et de ressusciter en Jésus-Christ par la foi. Nous sommes, nous aussi, des ressuscités. Alors j'aimerais vous poser la question ce matin. Si les résurrections dont nous avons parlé, qui sont inscrites dans les Écritures, rendent tout témoignage à un aspect du caractère parfait de Christ, votre résurrection, comment parle-t-elle de Jésus? Votre résurrection, votre vie nouvelle, de quoi témoigne-t-elle? De quel aspect du caractère parfait de Jésus rend-elle témoignage? On pourrait se poser la question et se demander, au fait, est-ce que ma vie rend témoignage à Jésus-Christ? Le passage que nous venons de lire nous invite à ressusciter en nouveauté de vie. Nous pensons facilement au baptême comme la mort. mais c'est aussi une résurrection. Et je peux imaginer, comme je le mentionnais en commençant, que quelqu'un qui a été témoin d'une résurrection que Jésus a accomplie sous ses yeux n'est plus le même pour le reste de sa vie. Imaginez ces gens qui étaient là lorsque Jésus a dit « Lazare, sors !» Imaginez ces gens qui étaient là lorsqu'il a pris par la main ce garçon, fils unique de la veuve, et lui a dit « Lève-toi !» Ces gens n'étaient plus les mêmes, ils avaient vu quelque chose que personne d'autre n'avait vu. Ils avaient vu Jésus rendre la vie à un de ses enfants. Mais vous avez vu aussi, vous, Jésus rendre la vie à l'un de ses enfants, à vous-même, vous qui avez été baptisé. Alors, votre résurrection, comment rend-elle témoignage du caractère parfait de Christ ? Le chrétien, c'est un mort qui marche. Le chrétien, c'est un mort vivant. Mais il y a pour cela une condition. Le texte que nous venons de lire nous mentionne que Christ voudrait que nous ayons cette puissance de résurrection en nous. Que cette puissance de la résurrection nous habite et fasse que nous ayons une vie nouvelle. Mais pour pouvoir recevoir la puissance de la résurrection, il y a une condition. C'est d'être mort d'abord. On n'a jamais appelé Jésus pour ressusciter quelqu'un qui n'était pas mort. La puissance de résurrection n'était pas nécessaire tant que la mort n'est jamais intervenue. Lazare n'avait pas besoin d'être ressuscité tant qu'il était malade. Ainsi, si nous nous posons la question de savoir comment notre résurrection va rendre témoignage au caractère du Christ, il faut peut-être se poser d'abord la question de savoir est-ce que nous sommes réellement morts avant d'avoir reçu la puissance de résurrection que Christ veut placer en nous à sa gloire. Dans la même épître aux Romains, au chapitre 6, un petit peu plus loin, au verset 11, il nous est dit ainsi, « Vous-même, regardez-vous comme morts au péché et comme vivants pour Dieu en Jésus-Christ. » Ainsi, si nous ne sentons pas en nous cette puissance de la résurrection dans notre vie, c'est peut-être que nous ne sommes pas encore morts pour pouvoir la recevoir. Écoutez ceci, un passage écrit en 1897 et qui résonne extrêmement vrai à mes oreilles aujourd'hui. La nouvelle naissance est une expérience devenue rare à cette heure de l'histoire du monde. C'est pourquoi il y a tant de perplexité dans les églises. Nombreux, très nombreux sont ceux qui portent le nom de Christ, mais sont non sanctifiés et impurs. Ils ont été baptisés, mais ils ont été enterrés vivants. Le moi n'est pas mort, et ils ne sont donc pas ressuscités à la vie nouvelle en Jésus-Christ. Lorsque nous avons été baptisés, est-ce que nous sommes morts vraiment ? Est-ce que ce moi, cette nature auquel nous tenons tant, est-ce que nous avons accepté de la laisser aller, de la remettre entre les mains du Seigneur pour que nous soyons morts ? Parce que c'est la condition pour pouvoir recevoir cette puissance de résurrection dont nous avons tant besoin pour que notre vie d'aujourd'hui soit un témoignage au Christ vivant et qui revient bientôt. Dans ce contexte-là, je comprends un peu mieux, un peu plus, cette parole de l'apôtre Paul dans l'Épître aux Galates où il dit « J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis. » C'est Christ qui vit en moi. Amen.